moi je suis devant vous aujourd'hui avec la responsabilité, certainement le privilège de partager la parole. Et on va continuer l'étude qu'on a commencé déjà depuis un bon moment. On est à la Genèse chapitre 4. Et j'attire votre attention au verset 1. On va lire à partir de maintenant du verset 1 jusqu'au verset 8 de la Genèse 4. La parole dit comme suit. Adam connut Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn et elle dit, « J'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. » Elle enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Et Abel, de son côté, en fit une des premières nées de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et se décide de porte vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Ça, c'est la portion biblique dont on va passer un bon moment. Juste pour donner certaines informations qui vont nous aider à comprendre mieux l'histoire, il faut faire une petite introduction. Cette histoire-là, on voit clairement et facilement cinq personnages, dont Caïn et Abel, Adam et Ève et l'Éternel. Les deux personnages principaux dans l'histoire, c'est Caïn et Abel. Caïn, le nom, son nom, ça veut dire obtenu, acquis. Ça, c'est dans le sens religieux. Parce que vous pouvez aussi faire la recherche et vous allez trouver que ça veut dire aussi artisan, travailleur du métal. Mais pour le but de l'enseignement, religieusement, Caïn, ça veut dire obtenu, acquis, racheté. Abel, de l'autre côté, ça veut dire souffle, vapeur, vanité. C'est ce que ça veut dire le nom Abel. Dans l'histoire qu'on vient de lire, on voit rapidement deux métiers. Deux métiers qui ont été très importants jusqu'à la mi-du 19e siècle. L'agriculture et les vergers, les pasteurs, les vergers. Pourquoi j'ai dit jusqu'à la mi-19e siècle? Parce que 19e siècle, on va voir un changement dans l'histoire avec la révolution industrielle. Mais avant ça, ces deux métiers, ils étaient très importants. Et puis, ils sont interdépendants. Un dépend de l'autre. C'est très important. Je ne veux pas que vous compreniez que l'agriculture et les vergers ne sont pas très importants aujourd'hui. Mais aujourd'hui, avec la révolution industrielle, on a fait un pas de plus. On est dans l'intelligence artificielle, dans les ordinateurs. Certainement, l'agriculture a sa place et aussi les troupeaux ont leur place. Ici, dans ces versets, et spécialement dans le verset 1, apparaît un mot. Adam a connu Ève. Le mot connaître, c'est une façon polie dans la Bible de mentionner une relation sexuelle. Comme nous sommes dans la Genèse, les principes, les débuts, les commencements, on est en présence de la première relation sexuelle de l'histoire de l'humanité. Adam a connu Ève. Et on est en présence aussi au premier accouchement de l'histoire de l'humanité. Genèse, les débuts, les commencements. Vous voyez, ça c'est très intéressant. Il y a beaucoup d'experts qui disent que Abel et Caïn étaient des jumeaux. En tout cas, si vous lisez les premiers versets, il n'y en a pas aucune. Dans la lecture, on ne voit pas un arrêt dont Adam a connu Ève et ils ont eu Caïn. Adam a connu Ève, ils ont eu Abel. Comme exactement dans le verset 25 de ce même chapitre, la parole nous dit « Adam connut encore sa femme et elle enfanta un fils et appelé du nom Seth. » Vous voyez, ça n'existait pas cette interruption dans les premiers versets, et beaucoup disent que ces deux frères étaient des frères gémeaux. Et n'ayez pas peur, parce que les gémeaux sont bien décrits dans la Bible. Par la grâce de Dieu, mon frère m'a donné l'opportunité de, au mois de décembre, vous partager l'histoire d'Esaü et Jacob. Comme vous le savez bien, Esaü et Jacob étaient des frères gémeaux. C'est un exemple déjà. Oui, mon frère.
Le verset 2 dit que, à nouveau, elle a connu Ève.
Ok. Et dans votre Bible, oui. En hébreu. Ok. Peu importe. Ça ne change rien de l'histoire. Il y a beaucoup qui disent qu'ils sont des gémeaux. Et finalement, la session passée. Oui.
Dans la mienne aussi, elle dit. Elle enfanta encore mon frère Abel.
Oui, mais.
Enfantant encore, mais si j'enfante une, j'enfante l'autre. Dans le même. Ma mère a eu des gémeaux. Elle a enfanté mon frère Eduardo. Et elle a enfanté aussi mon frère Fernando. Ce n'est pas qu'il y a eu une autre relation. Mais peu importe. Dans l'histoire, il n'y a aucune connotation. Je suis en train de vous dire ça juste comme une hint pour que vous ayez beaucoup plus de choses à chercher à la maison. La session passée, on a étudié Jean. Et moi, j'ai eu l'opportunité de parler un peu de Thomas. C'est lui qui l'a dit, il faut voir pour le croire. Vous vous rappelez? Thomas, il était appelé Thomas le Didyme. Il était surnommé le Didyme. Et le Didyme, ça veut dire gémeaux. Ça veut dire que Thomas avait un gémeau qui n'est pas décrit dans la Bible. On ne sait pas comment il s'appelle, mais Thomas, il avait un gémeau. Alors, les gémeaux, vous allez le voir dans la Bible, il n'y a pas de problème. Mais si c'est le cas que Adam a connu encore une fois Ève, ça ne change rien de l'histoire. C'est une curiosité seulement. Bon, on va voir aussi rapidement la promesse de Genèse 3.15. On est dans, pour le bénéfice de ceux qui viennent d'arriver à la Genèse 4. Mais la promesse de la Genèse 3.15 nous dit que la postérité de la femme va écraser dans la tête de la serpent. Et la postérité de la serpent va frapper les talons de la postérité de la femme. Et ça, mon frère l'a très bien expliqué la semaine passée, mais si vous voyez le récit, Ève était à côté en train d'écouter ce que Dieu disait à la serpent. Et ici, qu'est-ce que Ève a pensé? La postérité de la femme va frapper, va écraser la serpent. Ça, c'est la promesse du Messie, ce qu'on appelle le proto-évangile. Et quand Ève a enfanté Caïn, qu'est-ce qu'elle a pensé? Qu'est-ce qu'elle aurait pu penser? Oh, la postérité de la femme va écraser la tête de la serpent. Maintenant, j'ai un enfant que je l'ai fait avec l'aide de l'Éternel. Ça, c'est ma postérité, c'est un homme. Alors, lui, c'est le Messie. C'est celui qui va écraser la tête de la serpent. C'est ce qu'elle aurait pu croire facilement. Mais ce qu'elle ne savait pas, que dans ses bras, elle était en train de prendre un assassin, un fratricide. C'est ce que l'histoire nous dit. Alors, l'incontournable de l'histoire. L'incontournable de l'histoire du chapitre 4, c'est l'offrande et le fournisseur de l'offrande. Si l'offrande et l'offreur de l'offrande ne seraient pas dans le chapitre 4 de la Genèse n'existerait pas. Tout se déroule autour de l'offrande et de l'offreur de l'offrande. Sinon, ça nous raconterait une autre histoire, le chapitre 4. Alors, ça, c'est l'incontournable de l'histoire. Je veux relire versets 3, 4 et 5, parce qu'on va rentrer dans l'étude maintenant. Au bout de quelques temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Ok, les deux frères portent des offrandes. Celui qui prend l'initiative, c'est Caïn, étant peut-être le premier-né, le frère aîné, le responsable, c'est lui qui prend l'initiative et il amène une offrande au Seigneur, suivi par Abel qui aussi il porte une offrande. Mais la parole nous dit que Dieu porte un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur Abel, au lieu de porter un regard favorable sur Caïn et son offrande. Et c'est à partir d'ici qu'on va construire l'étude qu'on va faire aujourd'hui. Et deux questions vont guider notre étude. Parce qu'on va se poser des questions, et en essayant de répondre des questions, on va éclairer certaines choses. La première question qu'on va se poser, c'est pourquoi Dieu porte un regard favorable à Abel et son offrande, et pourquoi pas à Caïn et son offrande. La deuxième question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce que ça veut dire que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et son offrande, et non pas sur Caïn et son offrande. Ces deux questions guideront notre étude. Alors, pourquoi Abel et pas Caïn? Quand Dieu regarde ça, il va donner sa réponse, va donner sa faveur, il voit deux aspects. Il voit premièrement l'offreur ou le fournisseur de l'offrande. Avant de donner une décision, il voit l'offreur, le fournisseur. Et d'un autre côté, un deuxième aspect, il regarde l'offrande en tant que telle. Et c'est ce qu'on va décortiquer les versets pour aller en ordre. On va en premier parler du fournisseur de l'offrande, l'offreur, ok? Et on va commencer par Abel. Et on va essayer de répondre à la question, pourquoi Abel? Et pour ça, il va falloir prendre avantage de la révélation progressive dans la Bible. Soyez certains, la Bible est déjà fermée. C'est la volonté de Dieu. Les canons est là. Apocalypse dit, si quelqu'un ajoute quelque chose à ses prophéties, il va avoir des malédictions. La Bible est déjà fermée, mais on doit utiliser la révélation progressive. C'est quoi la révélation progressive dans des mots très simples? Parce que j'ai trouvé des définitions très profondes. Mais la révélation progressive étant des informations additionnelles d'une histoire biblique révélée plus tard dans l'histoire, qui enrichit la connaissance de ce qu'on va étudier. Et c'est pour ça que je vais vous amener au Nouveau Testament. Allez-y en Hébreux 11.4. Hébreux 11.4, s'étant au Nouveau Testament, plusieurs années, des milliers d'années des années plus tard, Dieu nous laisse cette verset ici qui dit « C'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui du Caïn. C'est par la foi qu'Abel fut déclaré juste. » Ça, c'est la révélation progressive. Dieu nous donne encore des informations pour mieux comprendre l'histoire. Alors, si on répond à la question « Pourquoi Dieu a porté un regard favorable sur Abel ?» La réponse est évidente, et parce qu'il a présenté son offrande avec foi. Et ça a fait toute la différence. Croyez-le ou non, ça a fait toute la différence. Abel fait une offrande non seulement plus excellente, comme on dit ici dans le verset d'Hébreux chapitre 11, verset 4, mais l'offrande était aussi généreuse. Pourquoi on dit qu'elle était généreuse? Parce qu'Abel a pris du meilleur de son troupeau, des premiers-nés et de leur graisse. Oui, mon frère, allez-y.
Plus qu'un animal aussi. Hein? Plus qu'un animal premier-né.
Oui. On va expliquer la partie de l'animal, parce qu'on est en train d'expliquer seulement Abel, comme fournisseur de l'offrande. Après ça, on va parler de l'offrande en tant que telle. Alors, il a présenté une offrande généreuse, parce qu'il a présenté du premier-né de leur troupeau et de leur graisse. Il a choisi celui qui était le plus gros pour le présenter. Alors, on ajoute la générosité. Si on lit quelques versets plus loin de Hébreux 11, on s'en va au verset 6. Hébreux 11, verset 6, dit comme suit. Sans foi, et on le connaît très bien ce verset, sans foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, n'est-ce pas? Si on n'a pas la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Alors, nous concluons que l'offrande d'Abel était une offrande qui était faite avec la foi, et c'est des fois à découler qui était plus excellent que celui d'Abel, elle était généreuse, et selon le verset qu'on vient de lire, elle était agréable à Dieu. Ok? Ça, c'est l'offrande d'Abel. C'est pour ça que Dieu a porté un regard favorable à Abel. Caïn étant l'antithèse d'Abel, si nous faisons une conclusion seulement, et on prend les informations qu'on vient de vous donner, Abel, à ce moment-là, nous pouvons les déduire facilement à Caïn a porté une offrande sans foi, pas tout à fait excellente aux yeux de Dieu, et sans générosité. L'offrande d'Abel était de Caïn était un peu avare. Mais je ne veux pas qu'on reste dans les domaines de la déduction. Je veux qu'on aille voir, encore une fois, la révélation progressive. Qu'est-ce que la parole plus tard nous dit au sujet de Caïn? Parce que maintenant, on a passé d'Abel à Caïn. Je vous amène votre attention au livre de Jude, verset 11. Jude n'a pas de chapitre. Jude, il y a un seul chapitre. Je peux vous dire, allez-y voir Jude, chapitre 1, verset 11. Ok, si vous voulez le comprendre comme ça. La parole nous dit, malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour les salaires dans les garments de Balaam, et ils se sont perdus par la révolte de Corée. On ne parle de Caïn, certainement. Jude met en garde, si vous lisez Jude, ça prend 5-10 minutes, vous le lirez aujourd'hui à la maison, c'est très petit, mais Jude met en garde les chrétiens de l'époque. Il les appelle au verset 1 ceux qui ont été appelés. Jude parle aux chrétiens, il les met en garde de qui? Des impies. Il est en train de mettre en garde des impies aux chrétiens. En fait, si vous lisez Jude, vous allez voir beaucoup d'adjectifs qualificatifs donnés aux impies, de très mauvais adjectifs qualificatifs. Et Jude met au même niveau que les impies que ces trios de personnages. Balaam, Corée et Caïn. On va laisser Caïn pour la fin. Je vais faire une petite explication de chacun des personnages. Balaam, si vous voulez savoir et voir l'histoire, vous allez aller en Nombre 22, 23 et 24. Balaam était un prophète du Seigneur et il a été offert par Balaak beaucoup de cadeaux, d'argent, tout ce que vous voulez penser, pour maudire le peuple d'Israël. Mais si on voit l'histoire, Balaam, il penchait beaucoup. Il n'a pas trahi le Seigneur. Il n'a pas maudit le peuple d'Israël, mais dans son cœur, il regardait les trésors qu'ils l'ont offert avec beaucoup de codice. Et c'est ce que la parole nous dit. Vous allez voir tout de suite. 2 Pierre 2,15. On va voir encore une fois qu'est-ce que la parole nous dit de Balaam. 2 Pierre 2,15 nous dit: après avoir quitté les droits chemins, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor. Et la parole nous dit, qui aima les salaires de l'iniquité. Balaam avait un penché pécheur sur l'argent. Il aimait les salaires de l'iniquité. Alors, on voit que ce premier personnage, il avait une façon de se comporter qui n'était pas bonne. En fait, la parole les condamne, parce qu'il voulait avoir le salaire de l'iniquité. D'un autre côté, Corée. Corée, on trouve ça dans Nombre chapitre 16, vous pouvez le voir. C'est quoi le problème de Corée? Corée étant un lévite, il a voulu prendre la place d'Aaron, le suprême sacrificateur. Il a fait toute une campagne politique pour détrôner Aaron comme suprême sacrificateur. Et il a voulu prendre sa place. Il a dit, je suis lévite, lui il est lévite, mais qu'est-ce qu'il a plus de moi? J'ai toute la capacité pour devenir le premier sacrificateur. Alors, Dieu a donné sa décision. Est-ce que l'histoire nous raconte, vous le lirez à la maison, la terre a englouti Corée et toute sa famille. C'est l'histoire grosso modo. Maintenant, on va passer à ce qui nous intéresse. Caïn. La parole nous dit, la voix du Caïn. Ils ont suivi la voix. La voix du Caïn. La voix, le mot voix, déjà nous laisse savoir que Caïn avait un mode de vie. La voix du Caïn, ce n'est pas l'action unique du Caïn, c'est la voix du Caïn. Ça veut dire qu'il fait référence à un mode de vie. Il semble, selon ce que je vais expliquer et selon ce qu'on va lire dans quelques secondes, que Caïn avait un mode de vie, comme on dit les Québécois, qui n'était pas très catholique. Les Québécois vont me comprendre. Il vivait une vie qui n'était pas très catholique. Pourquoi? 1 Jean 3,12 nous dit « N'est pas ressemblé à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. » Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises. Ce n'est pas une œuvre. Ses œuvres en pluriel étaient mauvaises. C'est pour ça que la voix du Caïn, c'est un style de vie. Ça se passe à travers le temps. n'est pas une seule action. Oui, il a fait mal en ayant tué son frère, mais il faisait des choses qui n'étaient pas très catholiques. C'est pour ça qu'il est dans ce trio de personnages dont la parole nous parle. Alors, si on répond à la question, pourquoi Dieu porte pas un regard favorable à Caïn, la conclusion, ce serait simple. Caïn n'a pas fait son offrande avec foi, et comme conséquence à cette incrédulité, l'offrande n'était pas agréable, n'était pas assez excellente, dit la parole, et non plus n'était pas généreuse. Pourquoi on dit ça? La compréhension rabbinique a saisi ce passage et dit oui, certainement, il le voit comme ça. Caïn a donné des grains de lin. Il s'entend pour dire que c'est des grains de lin que Caïn a donné. Mais il comprend dans leur vision que Caïn n'a pas donné, même si l'offrande n'était pas en mauvais état, les rabbins disent. Ils font l'emphase qui n'était pas abondante, que l'offrande de Caïn était maigre, faible, n'était pas assez. Il a donné à peine. Il le voit comme ça déjà. Il sait aussi la manque de son offrande était maigre. Maintenant, on a parlé des deux fournisseurs de l'offrande. Maintenant, on va s'en aller à parler de l'offrande en tant que telle. Et il faut se poser des petites questions dans les textes. Et c'est comme ça que, quand on étudie la parole, on essaye de résoudre certaines choses. Et la question qu'on va se poser, c'est de quoi dépend le caractère de l'offrande? De quoi dépend un caractère de l'offrande? Le caractère d'une offrande dépend de la finalité du fournisseur. Si le fournisseur de l'offrande a une finalité, c'est de ça que ça dépend l'offrande. De l'aspiration ou de la motivation du fournisseur de l'offrande. C'est de ça qui dépend le caractère de l'offrande. On ne pouvait pas offrir n'importe quoi. Et vous allez le voir dans quelques minutes. Les gens apportaient leur offrande en accord avec l'aspiration, le but, la finalité de ce que l'offreur voulait avoir. Parce qu'une offrande, c'est fait avec une intention. On n'offre pas le Seigneur parce qu'on est. On s'est réveillé ce matin et on va offrir le Seigneur. On a une intention. Dans les livres de Lévitique, vous allez avoir un couple de chapitres dont ils vont parler de la régulation des offrandes. On ne peut pas aller dans le passé, parce qu'on est dans la Genèse. On ne peut pas aller au passé de la Genèse. On n'a pas des informations. La Genèse étant le commencement. Pour comprendre des offrandes, on doit aller vers le futur prochain. Et on va voir le peuple d'Israël. Lévitique est plus loin dans Genèse chapitre 4. Mais vous allez trouver des chapitres de régulation des offrandes. Il y avait plusieurs sortes d'offrandes. L'holocauste, l'offrande des paix, l'offrande pour les péchés, l'offrande pour la culpabilité. Et si vous voulez aller à la maison lire Lévitique, vous allez trouver toutes sortes d'offrandes et toutes les quantités des offrandes qu'il y avait. Si on voulait le pardon, par exemple, on devait faire on devait remplir certaines conditions. Mais si on voulait offrir une action de grâce, exactement la motivation et les conditions allaient être un peu différentes. Ok? Alors, je répète, je veux que ça soit clair. Le but, l'aspiration, la finalité déterminent le caractère de l'offrande. Alors, dans les cas spécifiques de Caïn et de Abel, je veux qu'on se concentre dans ces deux personnages et dans le moment dont on vient de lire. Qu'est-ce qu'ils voulaient ces deux personnages quand ils ont présenté leur offrande? Certainement, on est dans un passage très primitif dans l'histoire de l'humanité. On ne sait pas finalement exactement qu'est-ce qu'ils cherchaient, c'était quoi leur intention pour amener une offrande. Mais une chose est certaine, ils cherchaient la faveur de Dieu. Ils cherchaient le regard du Seigneur en présentant l'offrande. Si je ne cherche pas le regard du Seigneur quand je présente mon offrande, à qui je présente mon offrande? Ils cherchaient, on est certain qu'ils cherchaient la faveur de Dieu. MacArthur les voit comme un acte appris ou enseigné par Adam à ses enfants. Genèse 3:21. Quand Dieu a dû sacrifier des animaux pour couvrir la honte d'Adam et Ève. Il les a donnés de la fourrure, n'est-ce pas? Il les a couverts. Alors, MacArthur dit, oh, ça c'est, Adam a enseigné à ses enfants amener une offrande, parce qu'il les a enseignés qu'ils ont eu honte et tout ça. C'est comme ça que MacArthur les voit. Aux yeux de Dieu, Abel a présenté son offrande avec une attitude correcte. Contrairement à Caïn, il a présenté une offrande avec une attitude incorrecte. Selon les Écritures, on doit s'en aller vers l'avant parce qu'on n'a pas des informations passées la Genèse. On doit s'en aller vers l'avant. Et on va découvrir dans la Bible que les offrandes étaient toujours, les sacrifices étaient toujours d'origine animaux. C'est pour ça que MacArthur utilise cette image-là. Et les prérequis pour une offrande, on les trouve facilement en Hébreux 9:22, dans la Torah aussi. Hébreux 9:22 dit, « Et presque tout, d'après la loi, est purifié avec le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. » C'était la condition ultime, unique. Ça doit être un animal et ça doit avoir effusion du sang. Et ça c'est la merveille, mes frères. Christ a versé son sang pour nous, pour qu'on puisse être lavé et purifié de nos iniquités. Et ça, c'est la doctrine de la substitution. Je ne suis pas là pour parler de ces belles doctrines, mais c'est ce que Christ a fait pour nous. Il a fait effusion de sang. Il s'est sacrifié pour nous. Alors, qui était mieux placé pour avoir la faveur de Dieu? Certainement Abel. C'est pour ça que Dieu a porté un regard favorable à Abel et son offrande. En conclusion, dans ces parties, il est très important que le fournisseur de l'offrande ait l'attitude adéquate et que l'offrande soit exactement comme Dieu le demande. C'est comme ça qu'on devait faire. Maintenant, on va se faire une autre petite question. On a vu l'offreur, on a vu l'offrande. Mais la question que je vais poser, c'est quoi les signes qui a laissé savoir à Abel et à Caïn que Dieu avait porté un regard favorable? C'est quoi la façon dont Dieu a laissé savoir à Caïn et à Abel, oui, je choisis ton offrande et je te choisis toi au lieu de l'autre? Il faut utiliser l'imagination parce qu'on n'a pas beaucoup d'informations. Mais je vais vous donner deux possibilités. La première option, comment Dieu a laissé savoir sa volonté et a choisi Abel au lieu de Caïn, c'est d'avoir un événement surnaturel. Vous vous rappelez d'Élie et les 450 prophètes? Dieu, d'une façon surnaturelle, a laissé savoir à ces groupes de personnes sa volonté. Comment il a fait ça? Il a envoyé du feu du ciel, il a brûlé l'offrande d'Élie. Et l'offrande d'Élie était mouillée, était presque rentrée dans une piscine. Et il a brûlé l'offrande d'Élie. Et c'est la façon dont Dieu a utilisé d'une façon surnaturelle pour qu'il ait cette information. Ok? Et Dieu a brûlé l'offrande. Ça, c'est une façon. De la même façon, Dieu aurait pu brûler peut-être l'offrande d'Abel. Et l'offrande d'Abel était brûlée, et c'est la façon dont Dieu a décidé de donner sa volonté et pencher d'un côté ou de l'autre. Et si Dieu répond comme ça, d'une façon surnaturelle de ce type, écoutez, la discussion est finie. Une réponse de cette nature, la discussion était finie avec Élie et les 450 prophètes de Baal. Parce que Dieu a répondu d'une façon nette et précise. Il a dit, c'est fini la discussion. Si j'ai un problème avec Jérémie, disons, on ne se met pas d'accord, on est en train de se chicaner pour un verset de la Bible. Et à ce moment-là, Jésus-Christ rentre par la porte. Et il me dit, Roy, Jérémie a raison. That's all. Si je me fâche, ça va être pire encore. Vous voyez, la façon surnaturelle de répondre de Dieu ne laisse pas la place à se chicaner. Il a répondu d'une façon extraordinaire. Mais moi, je veux vous amener à une autre sorte des réponses de l'Éternel. L'Éternel aussi répond d'une façon naturelle. Je ne sais pas vous autres, mais je vois dans ma vie que Dieu répond beaucoup de fois à certaines choses que j'ai vues d'une façon très naturelle. Et je le vois avec les actions. Moi, j'ai vu qu'on aille voir. Nous allons explorer la voie naturelle qui peut-être donnera beaucoup plus de sens à la réaction de Caïn dans le verset 5. Caïn, dans le verset 5, la parole dit que Caïn était très irrité. Il était vraiment fâché. Il était dans tous ses états. Et par la suite, il s'est déprimé. Son visage est tombé. Cette réaction s'explique un peu mal en sachant que Dieu a envoyé un feu sur l'offrande d'Abel. Peut-être l'explication de la voie naturelle de Dieu va nous faire comprendre mieux cette réaction très enflammée de Caïn. La voie naturelle. Je vais vous mettre quelques exemples de la voie naturelle. Genèse 29, 31 et 32. La parole nous dit que Jacob avait deux femmes, Rachel et Léa. Mais la parole nous dit que Jacob n'aimait pas Léa, parce qu'il a dû se marier par la force avec Léa. Il aimait Rachel. Et Léa, elle était vraiment triste. Et le verset 22, 32 de Genèse 29 nous dit, Léa devint enceinte et enfanta un fils à qui elle donna le nom de Ruben, car elle dit, l'Éternel a vu mon humiliation. Comment Léa comprend cette situation? Léa interprète la naissance de son fils comme le regard favorable de Dieu sur elle à cause de son humiliation. Un acte naturel, interprété comme l'anthropomorphisme du regard de Dieu. C'est comme ça que Léa a compris d'une façon naturelle que Dieu a porté un regard favorable sur elle et non sur Rachel à ce moment-là. Exode 2, 25, un deuxième exemple. Dieu entendit leur gémissement et se souvint de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et il a eu compassion du peuple d'Israël. Comment le peuple a su que Dieu a porté un regard favorable sur tout le peuple? Si vous lisez l'histoire, à ce moment-là, Dieu parle avec Moïse, il envoie les libérateurs du peuple d'Israël de retour en Égypte. Et Moïse commence à libérer le peuple. Et de cette façon, le peuple comprend, oh, Dieu a porté un regard favorable à nous. Il nous a vus. C'est de cette façon qu'il interprète aussi. Alors, Dieu utilise une façon naturelle pour nous communiquer plusieurs choses. Et ces voix ici, ça se dit comme ça. Quelque chose se passe sur le plan naturel qui est sous le contrôle de Dieu absolument et qui s'interprète comme le regard de Dieu. Ça, c'est la façon naturelle au lieu de la façon surnaturelle. Les deux sont possibles dans l'histoire. Mais l'histoire ne nous raconte pas, mais il faut les explorer. Alors, la question numéro 2 s'impose à ce moment-là. En quoi se traduit que Dieu porte un regard favorable sur Abel et sur son offrande et non sur Caïn et sur son offrande? C'est pour ça que je vais vous amener à Deutéronome chapitre 28, s'il vous plaît. Parce qu'on est en train de voir pourquoi Caïn il s'est fâché tellement. Si Dieu a donné d'une façon surnaturelle la réponse, pourquoi Caïn il se fâche, il est très irrité? Deutéronome 28 nous parle des bénédictions et malédictions sur le peuple d'Israël. Et tout ça par l'entremise de l'obéissance et aussi de la désobéissance. Si je lis le verset 1 de Deutéronome 28, la parole dit comme suit. « Si tu obéis la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera quoi? La supériorité sur toutes les nations de la terre. » C'est ce que le verset 1 de Deutéronome 28 commence à nous dire rapidement. Je vais résumer le verset 1 plus petit pour qu'on puisse les comparer avec le verset 7 de la Genèse 4. La parole dit simplement comme si, si tu obéis la voix de l'Éternel, l'Éternel te donnera la supériorité sur toutes les nations. Si on lit le verset 7 de Genèse chapitre 4, Dieu dit à Caïn, si toi j'y viens, supériorité, si toi j'y viens, tu relèveras ton visage. Certainement, les mots ne sont pas les mêmes, mais le concept est exactement le même. Si tu obéis la voix de l'Éternel, tu vas avoir la supériorité sur toutes les nations. Si tu agis bien, Caïn, tu vas relever ton visage. Le concept est le même. C'est comme si Dieu dit à Caïn, Caïn, si tu agis bien, tu vas être béni. Selon Deutéronome 28, je m'excuse. J'ai vu qu'on regarde certaines bénédictions seulement pour qu'on puisse rentrer dans le sujet et on puisse comprendre beaucoup plus pourquoi Caïn a réagi d'une telle façon. Il est fut triste. Si on agissait bien, si on écoutait la voix de l'Éternel, il avait à avoir beaucoup de... les champs, il allait être prospère selon les bénédictions, si vous les lisez. Le troupeau allait grandir en surmesure. La pluie qui allait tomber allait être la pluie exacte pour donner la vie aux champs. Il n'allait pas être une pluie en abondance pour détruire. On connaît les inondations aujourd'hui. La pluie peut tuer aussi. Mais quand la pluie est exacte, ça donne la vie. Il n'allait pas avoir la sécheresse. La pluie allait tomber d'une façon correcte. Le mariage allait être fertile. Vous voyez, si on écoutait la voix de Dieu, on allait avoir des familles très grandes. Et les enfants, c'était les signes dont Dieu nous bénissait. Aussi, si vous lisez la partie des bénédictions, vous allez avoir que le peuple allait avoir la paix avec ses ennemis. Il n'allait pas avoir de maladies. Tout ça si on obéissait la voix de l'Éternel. D'un autre côté, si on n'obéissait pas la voix de l'Éternel, si on faisait mal, on allait avoir des malédictions. Je vais y aller lire seulement quelques malédictions qui portent sur l'agriculture. Parce que Caïn, on est en train de voir pourquoi Caïn s'est fâché tellement. Et Caïn était un agriculteur. Et qu'est-ce que la parole nous dit? Chapitre 28 de Deutéronome 23, 28, verset 23, « Le ciel sur ta tête sera de airain, et la terre sous toi sera de fer. L'Éternel enverra pour pluie à ton pays de la poussière et de la poudre. Il en descendra du ciel sur toi jusqu'à que tu sois détruit. » Verset 33 nous dit, « Un peuple que tu n'auras point connu mangera les fruits de ton sol et tous les produits de ton travail, et tu seras tous les jours opprimé et écrasé. » Finalement, une dernière malédiction sur la terre, c'est que tu transporteras sur ton champ beaucoup de semences, et tu feras une faible récolte, car les sauterelles la dévoreront. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, et tu ne boiras pas du vin, et tu ne feras pas de récolte, car les vers les mangeront. Tu auras des oliviers dans toute l'étendue de ton pays, et tu ne te ongeras pas de l'huile, car les olives tomberont. Mes frères, il est très probable que le fait que Dieu n'ait pas porté un regard favorable sur Caïn et son offrande s'est traduit en malédiction pour Caïn, spécialement dans l'agriculture. Au contraire, il est très probable qu'à cause de l'obéissance d'Abel, les troupeaux d'Abel allaient prospérer. C'est peut-être pour ça que Caïn a eu cette réaction. Rappelez-vous, on lit 8 versets en 5 minutes. Et on croit que tout ça, cette histoire s'est passée en 2, 3 jours, une semaine maximum. Mais soyez... Moi, j'ai fait la recherche. Beaucoup disent que Caïn a tué Abel, et si on dit qu'il était gémeau, vous pouvez exclure ces parties-là. Abel est mort à l'âge de 100 ans, approx. 100 ans. Et Adam a eu 7. Adam a connu sa femme, ils ont eu 7 à l'âge de 130 ans. Et Adam a vécu 930 ans. Soyez pas naïfs. Cette histoire n'est pas arrivée en 5 minutes ni en une semaine. Caïn et Abel n'avaient pas 18 ans ni 19 ans. Ils étaient déjà des hommes mûrs. Là, rappelez-vous, la voix du Caïn, elle a eu le temps de se mal comporter dans sa vie. C'est pour ça qu'il dit, ne suivons pas la voix de Caïn. Alors, c'est ça qu'il faut regarder. Si on penche pour la réponse naturelle de Dieu, On devrait lire, oh, je vais paraphraser, ça, c'est ce que je vais lire, ce n'est pas la parole de Dieu, mais c'est la compréhension que je veux donner à ça. Ce n'est pas de mon... Ça, je l'ai vu quelque part. Je ne sais pas l'inventer, mais ce n'est pas la parole de Dieu, mais si vous suivez l'enseignement que je suis en train de dire, ça devrait dire comme ça le verset 3 à 5. Au bout de quelque temps, Caïn fut à l'Éternel une offrande des fruits de la terre dont l'a offert avec incrédulité et avarice. Et avait de son côté, fut une des premières nées de son troupeau et de leur graisse, qu'il a fait avec foi et générosité. L'Éternel, portant un regard favorable sur Abel et sur son offrande, Abel était prospère parmi ses brebis, il n'y en avait pas une seule stérile, et elles se multiplièrent grandement, et son troupeau ne diminua pas. Mais il porta pas un regard favorable sur Caïn et son offrande, et Dieu les frappa du vent d'Orient avec une chenille. Les sauterelles dévorèrent ses nombreux jardins et ses vignes et ses figuiers et ses oliviers. Et la ruine de Caïn fut grande. On devrait le comprendre un peu comme ça si vous acceptez ce que je suis en train de voir en Deutéronome, les bénédictions, les malédictions. Sans aucun doute, cette situation mettrait en colère à n'importe quelle personne. Peut-être même à vous. Vous serez en colère si vous voyez votre frère cadet prospérer superlativement et vous, à travers les années, planter votre champ, mettre les meilleures semences, travailler jour et nuit, voir une belle récolte et toutes les vers, les manches, les sauterelles viennent. Finalement, je m'efforce pendant les années pour avoir une belle récolte et je n'obtiens rien. Juste plus, je plante mes olives. Je ne peux pas avoir l'huile des olives. Certainement, à travers les années, la première année, Caïn a dit, c'est une malchance. La deuxième année, j'ai peut-être fait une erreur à un moment de planter. La troisième année, je deviens très fâché. Et finalement, il est fut très irrité. Ok. Je dois raccourcir mon enseignement. On s'en va directement au verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et se désire se porte vers toi, mais toi domine sur lui. Verset 7, la première partie dit, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Mes frères et sœurs, voici la nature de notre Dieu. Nous avons un Dieu miséricordieux. Nous avons un Dieu qui est prêt à nous pardonner. Nous avons un Dieu qui est toujours, il donne toujours une solution. Il ne reste pas indifférent. Il nous donne une solution. Dieu veut que Caïn corrige son mauvais coup. Caïn, si tu as fait bien, tu ne devrais pas te fâcher. Tu as encore le temps de corriger. C'est ce que Dieu dit à Caïn. Et c'est pour nous autres, pour vous. Si on est en train de faire mal, Dieu, à travers Esaïe, nous dit, alors Caïn, alors mes frères et sœurs, lave-toi, purifie-toi, au de devant mes yeux, dit l'Éternel, la méchanceté de vos actions. Cesse de faire le mal, apprends à faire le bien. C'est ce que Dieu nous dit si on est en train de faire mal. Il nous donne toujours la chance de se reprendre. Certainement, Caïn avait un orgueil spirituel. Et on va voir ça dans l'histoire. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et se désire se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Certainement, mes frères et sœurs, ça c'est un verset très difficile à expliquer. Si on passe à travers ça rapidement, on ne va pas se rendre compte. On va le prendre ça à la légère. Mais si on le lit attentivement, il y a un grand problème sur ce verset. Mais je vous amène ici deux interprétations de ces versets-là. Je vais les nommer les deux. Et vous ferez la conclusion. Ici, je vous pique la curiosité. Certainement, le but de la classe, c'est pas que je me mets à étudier pour vous, c'est que vous piquez la curiosité, vous allez à la maison, feuilletez plus, et ça va être pour votre bénéfice. Mais avant d'expliquer ça, il faut que je dise quelque chose qui doit rester très clair. Aucune de ces deux interprétations dont je vais donner maintenant change le fait que Dieu est miséricordieux et compatissant. Que Dieu nous donne toujours une chance de corriger et de faire ce qui est correct. Ce que je vais parler à partir de maintenant, ça ne change pas la nature de Dieu. Peu importe sur quelle version vous penchez de l'explication, Dieu reste toujours miséricordieux et compatissant. Il nous donne toujours la chance. La première interprétation de ces versets de chapitre 7, il dit comme suit. Caïn, vous pouvez faire ce qui est juste, c'est-à-dire reconnaître votre péché, reconnaître votre orgueil spirituel, reconnaître votre misérable hypocrisie, puis obéir à ce que je vous ai dit et apporter un sacrifice approprié à moi. Ça, c'est la première partie du verset 7. Si vous ne faites pas bien, alors vous n'avez encore rien vu. Le péché est couché à la porte, comme un lion rapace, et son désir est pour toi, vous devez le maîtriser. On paraphrase, c'est ça. Dans des autres mots, Caïn, le péché va te déchirer. Caïn, le péché va te déchiqueter. Et vous allez devoir passer le reste de votre vie à essayer de dominer sur le péché. C'est l'explication. Dieu dit à Caïn, Caïn, soit tu viens à moi et tu fais ce qui est juste, soit tu te jettes dans une guerre perdue d'avance qui va faire mal, qui va te faire mal pendant toute ta vie. Ça, c'est l'explication de MacArthur. Il y a un audio, une prédication de MacArthur qui s'appelle The Portrait of a Doomed Sinner. Vous pouvez aller à Grace to You et vous allez écouter, c'est une très belle prédication. Et c'est ça qu'il dit, que Caïn va devoir essayer de dominer le péché pendant toute sa vie s'il ne corrige pas. C'est comme ça que lui et plusieurs le voient. Genèse 3.16, qu'est-ce que la Genèse 3.16 dit? Tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Ça, c'est la malédiction à la femme, vous vous rappelez? Et les mêmes mots de Genèse 3.16 se répètent dans la deuxième partie du verset 7 du chapitre 4 de Genèse. C'est exactement les mêmes mots. Et mes frères et sœurs, nous sommes devant les conflits du mariage. Ça, c'est le conflit du mariage. La femme va toujours avoir une sorte de désir prédateur envers l'homme, et lui, il va toujours se battre pour maîtriser les désirs de la femme. C'est ce qu'on appelle le conflit du mariage. Ce conflit est très commun dans des couples qui ne sont pas chrétiennes. C'est très commun. Tu vois, la femme essaie de dominer son mari, et le mari est en train de lutter contre sa femme. Et aussi, dans des couples, certains couples chrétiens qui n'ont pas été enseignés dans les principes bibliques de l'Écriture, ils ont ces conflits-là. Quand les couples n'ont pas été enseignés dès le début ça, ils ont ces mêmes problèmes, les conflits de mariage. Dans les deux cas, les cas de Caïn et Abel, et les cas de la femme et de l'homme et de la femme, qu'est-ce que Dieu veut rétablir avec ces malédictions qu'il donne à la femme et ces choses que Dieu est en train de dire à Caïn? Dieu simplement est vu rétablir l'ordre divin. C'est le but de Dieu. Dieu a fait un ordre et Dieu veut que l'ordre se respecte. C'est tout. Et c'est pour ça qu'il dit à la femme, écoute, tu vas vouloir te désirer sur ton mari, mais c'est lui qui va dominer sur toi. Je veux que vous retenez ceci. L'homme n'est pas la tête pour détruire ou pour maîtriser sa femme. Il est la tête pour aimer et protéger sa femme et sa famille. Okay? Ce n'est pas une question pour savoir ce qui est le meilleur, c'est une question de dessein divin. Ça, c'est tout. Deuxième interprétation, et avec ça, j'ai fini. L'interprétation nous dit comme suit, et cette interprétation découle de la difficulté qui existe dans le verset 7. Si vous lisez le verset 7 dans la deuxième partie, il dit... Qu'est-ce qu'il dit? Je vais le lire rapidement. La deuxième partie dit, si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domines sur lui. La parole est en train de dire à Caïn, si on interprète comme MacArthur, Caïn, tu dois dominer, et le mot dominer, on va le voir, le péché. Alors, un inconverti, Caïn, un homme charnel, Caïn, est appelé à maîtriser, à dominer, à régner sur les péchés. Ça nous porte une difficulté théologique. L'homme charnel, spécialement charnel, n'est pas appelé à dominer sur les péchés. Il ne peut pas. Et l'interprétation de MacArthur et autres personnes l'explique comme que Caïn doit essayer de maîtriser les péchés toute sa vie. Mais le problème de cette interprétation, comment je le vois, on doit essayer. Le mot essayer n'apparaît pas sur l'explication du verset 7. Alors, comment interpréter ces versets? Pour cette deuxième interprétation, il faut qu'on étudie pas mal l'hébreu comme mon frère. Il faut s'asseoir et passer des heures et des heures à vraiment étudier ces versets-là pour pouvoir arriver à une conclusion. Mais cette interprétation que je vais vous donner, ce n'est pas mon interprétation à moi, ça découle d'un midrash juif. Et vous allez dire, c'est quoi un midrash? C'est quoi un midrash juif? Un midrash juif est une méthode, un système sophistiqué d'interprétation qui prétend concilier certaines apparentes contradictions bibliques. Le midrash a été créé ou conçu pour enrichir les contenus bibliques. Nous autres, on étudie la Bible verset par verset et on trouve que ça c'est la meilleure façon, une des bonnes façons. Mais le midrash a été créé pour interpréter la Torah. Ça c'est où ça? Dans la Torah. C'est dans Bereshit, comment ça s'appelle en hébreu? La Genèse c'est
Bereshit.
C'est dans la Torah. Alors, les Juifs, ils ne voient pas verset par verset. Ils voient le contexte. Et dans des apparentes contradictions, ils essayent d'interpréter ça en regardant les complets, les tout. Alors, on y va avec l'interprétation. La parole, le Midrash dit comme suit. Caïn, tu as fait mal déjà. Tu n'as pas présenté un animal comme offrande et il faut que tu corriges. Et il dit ça, le péché se couche à la porte, et c'est-à-dire se porte vers toi, mais toi domines sur lui. Le mot péché en hébreu est hatat. On a discuté ça avec mon frère la semaine passée. Et hatat, certainement, ça veut dire péché. Hatat est péché. Mais hatat, il y a des connotations aussi. Et une des connotations de hatat, c'est sacrifice expiatoire. Hatat aussi, ça veut dire sacrifice expiatoire, offrande expiatoire. Et dans la Bible, il existe plusieurs versets dont on utilise ces mêmes perspectives de Hatat. Si vous voulez, je peux parler après, on va vous donner plusieurs. Mon frère y a trouvé l'autre jour rapidement quelques-unes. Caïn, l'offrande pour le péché est à la porte, tu as encore accès à la victime expiatoire. Il est encore temps de te corriger. Si tu offres la victime expiatoire, je vais absolument rétablir l'ordre divin. Tu es certainement le premier-né et tu vas avoir transformé ton malheur, ton irritation, ta rage en allégresse. Tu vas être sur ton frère et il va se soumettre à toi. Oublions pas, Abel n'a rien à voir avec ces discussions. Il n'est pas là, il ne sait même pas que Dieu est en train de parler avec Caïn. Et Abel est un homme de foi. Un homme de foi accepte la volonté de Dieu, simplement. Alors, on prétend, selon les midrash juifs, Abel va accepter la volonté de Dieu. Rappelons-nous, le mari n'est pas la tête de la femme pour la dominer de la même façon. Dieu voulait rétablir la relation entre Abel et Caïn pour que Caïn devienne dans sa place comme avec les droits de la primogéniture, mais il ne le faisait pas pour que Caïn profite et prend avantage de son frère. Il faisait ça pour qu'il laisse l'ordre établi. On voit une curiosité ici. Hatat, péché, est un mot en féminin. À partir que le péché est à la porte, hatat, l'offrande expiatoire, féminin, tout le reste de l'explication est en masculin. Pourquoi le Midrash essaye de le traduire comme ça? Parce qu'il voit un conflit entre les deux frères. C'est pour ça que ça change l'exposition du féminin au masculin. Les deux frères avaient un problème. Et puis, certainement dans l'histoire, un frère haïssait l'autre. On ne sait pas l'attitude d'Abel, mais Abel était aussi un pécheur. Hein. Même s'il était un homme de foi, il était un pécheur. Il faut avoir. Et cet accident grammatical, le Midrash le met comme une relation humaine entre Caïn et Abel. Et si on est d'accord avec ça, Hatat, l'offrande expiatoire est à la porte, le désir de ton frère est à toi, mais toi finalement vas dominer sur ton frère. Et comme ça, on va rétablir l'ordre divin. C'est ce que je veux. Finalement, l'histoire nous dit, mes frères, qu'est-ce que Caïn devait faire pour rétablir la situation? Aller prendre un aliment. À qui il devait aller pour prendre l'aliment? Il devait aller parler à son frère. Il allait dire, mon frère, donne-moi un aliment, que j'ai mal présenté mon offrande, mais moi je veux rétablir, Dieu m'a demandé de faire les choses bien comme il faut, donne-moi un brevet. Il aurait pu l'acheter, faire un échange, peu importe, mais il devait aller avec son frère parler. Mais malheureusement, l'histoire nous raconte que lui, il n'a pas opté pour la situation, pour la solution que Dieu l'a offert. L'orgueil spirituel l'a tué. Et il est devenu Caïn, le premier assassin de l'histoire, le premier fratricide de l'histoire. C'est malheureux, mais c'est comme ça que l'histoire finisse. Deux petites choses avant de finir. En conclusion, faisons attention à nos émotions. Peu importe l'interprétation, vous prendrez l'interprétation que vous voulez, vous allez pouvoir aller à la maison investiguer plus. Mais en conclusion, nous devons faire attention à nos émotions. La colère, la jalousie, l'envie, l'orgueil sont des sentiments précurseurs à la chute. Faisons attention. La parole nous dit, sachez-les mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter l'un à parler, et l'un à se mettre en colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Faisons attention à nos émotions. La parole nous demande d'avoir la tempérance. Vous vous rappelez les fruits de l'esprit? On est appelé à avoir la tempérance avec l'aide du Saint-Esprit. Ça, c'est une. La deuxième, nous devons donner à Dieu ce que nous avons de meilleur. Et nous devons donner à Dieu, c'est exactement ce que Dieu demande. La parole ne nous demande pas aujourd'hui de présenter des sacrifices des animaux, mais certainement, Nick a parlé la semaine passée de Romains chapitre 2, versets 1 et 2. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte rationnel. Transformons-nous par le renouvellement de notre intelligence afin de discerner la volonté de Dieu, sainte, agréable, parfaite. Et finalement, n'oubliez pas que nous avons un Dieu miséricordieux, un Dieu qui pardonne nos iniquités. Il nous donne toujours l'opportunité de corriger nos fautes. 1 Corinthiens 10, 13 dit, « Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. » Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir, afin que vous puissiez les supporter. Mes petits, dit la parole, mes petits enfants, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez pas. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. Alors, faisons attention. Ne prenons pas l'exemple de Caïn. Peu importe l'interprétation dont vous allez choisir, Dieu reste miséricordieux. Ne vous laissez pas dominer par nos sentiments. Dieu, il veut qu'on lui donne le meilleur que ce qu'on a. Comme il le veut, pas comme on veut. Que Dieu vous bénisse. Et Nick, peux-tu prier pour finir,
Président? Notre Dieu, notre Père, merci pour ta parole ce matin qui nous interpelle. Nous sentons que cette parole est pour nous directement. Merci pour le fait que nous voyons une fois de plus ta miséricorde et ta grâce communiquée envers Abel et Caïn, Seigneur. Nous sommes aussi récipiendaires de ta miséricorde et de ta grâce. Nous voyons, Seigneur, le péché qui nous enveloppe si facilement, chacun d'entre nous. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à marcher devant toi, à t'honorer, à te glorifier, à te servir. Nous ne voulons pas, Seigneur, marcher selon nos propres pensées. Et nous voulons, Seigneur, nous attacher fermement à toi, ta parole, et marcher en obéissance pour te glorifier et pour t'honorer. Seigneur, merci pour Roy, mon frère bien-aimé. Merci pour cette classe. Merci pour le livre de la Genèse. On a tellement besoin d'apprendre dans ta parole et dans le commencement. de ta parole, de ton plan pour nous. Guide-nous aujourd'hui, bénis nos cœurs alors que nous voulons t'adorer en église, alors que nous voulons entendre ta parole, soit avec le prédicateur. Nous t'en prions dans le nom de Jésus. Amen.